vais nous présenter très brièvement. Donc, je m'appelle Baptiste, Baptiste Caze, voici Vincent Choupeau. Bonjour. On s'occupe tous les deux d'un site internet qui s'appelle electro-gn.com et qui a pour objectif de documenter et de parler du jeu de rôle grandeur nature en France, en Europe et d'une manière générale dans le monde. Donc rassurez-vous, si vous ne savez pas ce que c'est, on va présenter brièvement ce que c'est comme activité, comme pratique. Et puis derrière, on va vous faire un petit tour d'horizon du jeu de rôle grandeur nature dans le monde à travers de nombreuses images. Je vais d'abord donner une brève définition de ce qu'est un jeu de rôle grandeur nature. Vous allez voir que ça va être très vague parce que c'est un média, et de même que dire le cinéma c'est des images qui bougent, c'est un peu compliqué d'aller plus loin, mais je vais essayer de vous donner quand même une brève description de ce que c'est. Le jeu de rôle grandeur nature, c'est un peu l'aboutissement du jeu de cow-boy indien quand on était gamin. Vous avez tous eu un cousin ou une cousine avec lequel vous avez joué quand vous étiez gosse. Y en avait un qui disait « on dirait que j'étais le shérif et toi l'indien », et puis vous tourniez autour de la baraque et pendant 5-10 minutes vous y étiez, vous créiez une petite histoire, un petit récit. Le jeu de rôle grandeur nature, c'est la même chose, mais c'est des adultes, ils ont beaucoup plus de pognon, ils sont beaucoup plus nombreux, ils se donnent les moyens de faire un truc très très grand. Et la plupart du temps, il y a un ou plusieurs organisateurs qui vont s'occuper de construire les tipis, de préparer les armes à feu, etc. L'image que vous avez là, juste au-dessus, c'est un jeu de rôle grandeur nature qui s'appelle Chicago, qui a été organisé par une association parisienne. Les trois personnes que vous voyez là sont des joueurs. Donc l'homme et la femme ne se connaissaient pas avant le jeu. Ils vont pourtant jouer un mari et une femme avec leur petite fille. Et pendant 48 heures, ils vont être dans la peau de ces personnages. On va leur donner un petit background, quelque chose, quelques lignes. Et puis ensuite, ils vont improviser la vie de ces personnages-là. Ils ne sont pas les seuls à improviser, puisque dans le Chicago, il y avait, je crois, environ 80 joueurs. Je dis peut-être une bêtise, c'était peut-être... Combien ? 120 ? Oui, 120, on me fait signe, il y en avait 120. Donc pendant 2-3 jours, les gens vont improviser la vie de ces personnages-là, interagir les uns avec les autres. Ils vont être totalement libres de leurs actions, à partir du début du jeu jusqu'à la fin du jeu. Et ça va pouvoir donner toutes sortes de situations. Un deuxième point important, c'est qu'il y a des tas de choses en jeu de rôle grandeur nature qu'on ne peut pas vraiment simuler. Comme par exemple les combats, les règles de magie pour les univers les plus médiévaux fantastiques. Mais également le vol, le crochetage, pourquoi pas le sexe. Donc c'est des univers dans lesquels très régulièrement il va y avoir un certain nombre de règles. Elles sont parfois très simples, parfois très compliquées. On donnera quelques exemples. Là derrière, on vous a mis une image d'un golem de pierre dans un gène médiéval fantastique. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'images qui sont issues de ces univers à la Tolkien, puisque c'est historiquement de là que vient le jeu de rôle grandeur nature. L'autre point, c'est une particularité française essentiellement. Le jeu de rôle grandeur nature est quasiment systématiquement en France une histoire, un récit particulier. Les joueurs vont essayer d'improviser quelque chose qui a du sens et qui va construire un récit, une histoire d'un bout à l'autre. Il y a des pays dans le monde, on y reviendra, qui cherchent beaucoup moins à raconter une histoire et beaucoup plus à faire vivre des petites tranches de vie ou des expérimentations particulières ou à repousser les gens dans leur retranchement. En France, c'est essentiellement un loisir divertissant et qui cherche à construire une histoire. Là, l'image que vous avez derrière, c'est un jeu de rôle qui a lieu en Espagne, mais qui est français, qui s'appelle l'Ultime Western. Tous les gens que vous voyez là, à l'exception de deux qui sont des touristes, sont des joueurs, et ça pourrait être vous. C'est des gens qui, moyennant une participation aux frais de je sais pas, 60 à 120 euros, ont décidé chez eux de se faire un costume, un peu comme les cosplayers à côté, et d'aller pendant 3 jours vivre dans une ville western. Un organisateur leur a remis quelques lignes, et ensuite ils sont partis là-dedans. Une des règles du jeu de rôle grandeur nature, quasiment absolue, c'est qu'on va essayer pendant toute la durée du jeu de ne pas en sortir. De ne pas dire à quelqu'un « Ah ouais, on dirait que là, tu m'avais piqué mon arme. » On va juste essayer de piquer l'arme de l'autre ou essayer de faire en sorte que chacune de ces actions soit une action du personnage. Alors, tantôt, ça peut poser des problèmes. J'avais le cas de quelqu'un qui s'est tordu la cheville un jour sur un jeu. Il était dans la forêt, dans un campement. Et puis, il a décidé d'aller vers le camp de secouristes avec deux copains. En arrivant près du camp de secouristes, il y avait aussi toute une armée qui était là. Ils étaient environ 120 ou 150. Ils leur ont fait des grands signes avec leurs épées pour leur dire « Ouais, on a un blessé ». Simplement, les gars n'entendaient pas et donc ils se sont fait charger par 150 personnes. Donc une des règles en jeu de rôle en aventure, c'est que tous les gestes que vous faites peuvent être interprétés par l'autre en tant que joueur, ce qui implique un nombre de règles parfois impressionnant, parfois très simples. Donc voilà, quelques notions clés qui vont avec ça. Ça, c'est une image d'un jeu russe sur l'univers de Fallout. Il y aura 2-3 autres images de ce jeu parce qu'il est assez impressionnant visuellement. Donc quelques notions clés que s'imposent les joueurs de jeux de rôle grandeur nature en général. Ce sont d'abord le fair play, le fait de respecter l'ensemble des règles. C'est des jeux dans lesquels, contrairement à un jeu vidéo par exemple, il est totalement impossible de surveiller chacun des joueurs, de veiller à ce qu'il y ait un respect total de la règle. Si jamais on annonce à un joueur que la règle dans ce jeu est qu'une balle prise dans le tronc te tuera instantanément, il est impossible de vérifier si les joueurs vont le respecter ou non. Donc on a 60 à 500, 700, 1500 joueurs qui vont tout simplement essayer de construire une histoire ensemble en respectant un certain nombre de règles qui se sont données. Voilà. Et personne ne va vérifier si vous trichez vraiment ou pas. On est là pour s'amuser ensemble, pour construire quelque chose ensemble. Le roleplay, c'est comme ça qu'on appelle l'acting ou le fait de jouer son personnage en jeu de rôle grandeur nature. C'est une notion qui est intéressante parce que contrairement à du théâtre d'improvisation, en jeu de rôle grandeur nature, on ne va pas vous demander un résultat particulier. C'est-à-dire que n'importe lequel d'entre vous peut demain aller s'inscrire dans un jeu qui a une très grosse ambition, comme le jeu que vous voyez derrière, qui est un jeu post-apocalyptique, qui se passe dans un monde où il n'y a plus de soleil. Donc ils ont entièrement bâché un ancien fort français pour ne plus voir le soleil pendant 3 jours. Donc il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup de gens qui sont là, mais si vous voulez venir jouer et que vous vous dites « mais je suis un pitoyable acteur », ben, ce n'est pas du tout un problème. On va vous demander d'essayer de jouer votre personnage, mais on ne va pas vous demander d'être très bon. Et d'ailleurs, la plupart des joueurs sont pathétiques. Voilà, c'est pour ça qu'on montre des photos et pas des vidéos. Mais il y en a des très bons aussi, hein, comme lui par exemple. Une autre notion importante, c'est le fait que dans un jeu de rôle grandeur nature, contrairement à beaucoup d'autres médias, il va falloir être actif. Au début, j'avais mis proactif, mais je me suis dit proactif, ça fait un peu corporate, quoi, on se croit au boulot, donc j'ai mis volontaire. Comme ces deux Zig derrière qui sont sur un gène russe, les Russes sont un peu détarés, et qui se sont construits leur petit char parce que ça le faisait. On ne vous demande pas de faire un déploiement de matériel immense. En revanche, une fois que vous êtes dans le jeu, pour s'amuser, il va falloir aller chercher de l'action. Si vous êtes dans un GN western, GN c'est jeu de rôle grandeur nature en abrégé, hein, je risque de le dire plusieurs fois, et que vous décidez de jouer un type qui est un pilier de bar au saloon et que vous n'en bougez pas, il risque de rien vous arriver. Il peut être intéressant d'aller chercher à provoquer des scènes de jeu, etc. Donc les joueurs sont souvent très volontaires, très actifs pour créer quelque chose. Et quand vous êtes débutant, bah, il n'y a pas de problème avec ça. Ne vous inquiétez pas, quelqu'un va venir vous emmerder au bar systématiquement. Comme ça, vous êtes sûr de jouer, quoi. Quelqu'un va vous prendre par la main. Et ça fonctionne très bien. Une autre notion, alors on risque d'employer le terme plusieurs fois, c'est hors-jeu et en-jeu. Alors derrière vous avez des images d'un jeu intéressant, c'était un jeu scandinave dans lequel une poignée de Danois de mémoire jouait un équipage de sous-marins dans une guerre futuriste. Bon. Au bout de 3 heures de jeu, ils ont réussi à attraper avec une sorte de pince métallique un autre sous-marin à l'extérieur avec tout un système d'écran, de contrôle qui leur disait ce qui se passait à l'extérieur du sous-marin. Puis là, ils ont ouvert le sas, et derrière, ils ont trouvé 12 Suédois, cette fois-ci, qui jouaient eux aussi, en fait, depuis 4-5 heures, dans un autre sous-marin, et ils ont commencé à se rassembler. Donc un jeu intéressant, et rien à voir avec la notion de hors-jeu, en-jeu, c'était juste pour vous montrer des images qui claquent un peu. Alors, on dit que quelque chose est en-jeu quand il appartient à l'univers du jeu, et quelque chose est hors-jeu quand il n'y est pas véritablement. Si, par exemple, je décide dans mon jeu, pour se camoufler, les gens qui se déplacent dans la forêt vont mettre un bandeau autour de la tête, vert. Ce bandeau autour de la tête, pour tous les joueurs, signifie que le type est camouflé. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Bon, il est lamentablement camouflé dans un buisson, mais je vais faire comme si je ne le voyais pas. Et bien, on considère que ce bandeau est hors-jeu. Voilà. Donc je faisais un petit tour sur cette notion vite fait, parce qu'on va en reparler. Il y a beaucoup de gens ici qui ne connaissent pas le jeu de rôle grandeur nature. Qui n'a jamais entendu parler de jeu de rôle grandeur nature? Vous êtes 5. Donc c'était pour vous, cette partie-là. Maintenant, on va attaquer les trucs un peu compliqués. Je vais faire un petit tour de l'historique du jeu de rôle grandeur nature. Ça, c'est un gène qui a eu lieu au château de Chillon, en Suisse. Qui est un château, c'est l'équivalent du Versailles français, quoi. Et une association suisse a eu tout le château pendant tout un week-end. Donc, ils ont pu faire un jeu vraiment, vraiment très historique, très particulier, qui a donné de très, très belles images. Parce que c'est difficile d'avoir une image de photo de jeu de rôle grandeur nature sans avoir une vieille bagnole derrière. C'est pas si simple, quoi. Là, on dirait que c'est beau, mais parfois, c'est tout pourri. Alors, l'origine du jeu de rôle en miniature, c'est les wargames ou les jeux de figurines sur table. En bref, ces jeux se sont répandus dans les années 70 aux États-Unis, surtout au départ. Et puis, au bout d'un moment, il y a quelques zigs qui ont dit ce serait plutôt sympa, plutôt que de jouer une armée de prêtres ou de guerriers, que moi, je joue simplement le rôle d'Aragorn. C'est ça qui me fait vibrer. Et puis, assez rapidement, il y a un joueur autour de la table qui a dû se dire. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais raconter un peu ce que font tous les autres personnages, et toi, tu vas raconter que ce que fait Aragorn. Comme ça, tu auras l'impression d'être Aragorn, et on va se refaire le Seigneur des Anneaux. Donc ça a démarré comme ça, et ça a donné le jeu de rôle sur table, qui, d'année en année, a pris de multiples formes. Le jeu de rôle sur table, c'est un peu comme le jeu de rôle grandeur nature, simplement, vous êtes rassemblés autour d'une table, et vous racontez une histoire les uns les autres. Quelques années plus tard, il y a des gens qui en avaient marre de jouer autour de la table, il y en a un, il s'est dit. Je vais me mettre mon costume d'Aragorn et je vais aller le faire dans la forêt. Et puis toi, mon pote, super sympa, tu vas prendre mon petit frère et tu vas le déguiser en monstre et je vais aller lui taper dessus. Donc ça a duré une année, puis à la fin, le petit frère en a eu marre. Et à partir de là, il y a des jeux un peu plus complexes qui ont commencé à voir le jour, dans lesquels les personnages étaient un peu plus fouillés. Plutôt que de résumer le personnage à quelques statistiques, comme son score de combat à l'épée ou de tir à l'arc, on a commencé à lui donner une histoire. On racontait l'histoire du personnage. Au joueur qui allait l'incarner, de, mettons, sa petite enfance jusqu'à ses 21 ans. Et puis le jeu démarre à ses 21 ans plus un jour, et à partir de là, le personnage va agir comme le joueur veut qu'il agisse. Aujourd'hui, c'est pas rare de vous inscrire à un jeu, c'est pas la norme non plus, mais c'est pas rare de vous inscrire à un jeu et de vous voir remettre une fiche de personnage qui va faire 20 ou 30 pages, donc quelque chose d'assez copieux. C'est pas la norme, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, on a des personnages de plus en plus fouillés dans le jeu de rôle grandeur nature. C'est devenu la majorité des jeux en France. Et puis, quelques années après ça, je dirais à partir de peut-être 4, bon, je vais dire une bêtise, mais dans les années 80, à la fin des années 80, les organisateurs de GN ont compris quelque chose. Être organisateur de GN pour un groupe de 5 joueurs et devoir gérer avec 10 copains. Tout le reste des personnages, c'est super compliqué. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, on va prendre 120 personnes, on va leur donner des rôles, et puis on va les laisser interagir entre eux. Et effectivement, bah, s'ils s'entretuent, j'aurai des joueurs morts, enfin des personnages morts. Mais d'un autre côté, je vais avoir toute une ville qui va se mettre en place, et puis moi, j'aurai besoin de rien faire finalement. J'aurai plus besoin de dire à 10 copains de venir avec moi organiser pour jouer tous les marchands, tous les gens de la ville, etc. C'est juste les joueurs qui vont faire ça entre eux. Et donc, c'est le début de l'interaction. Si jamais vous avez la chance un jour de faire un jeu de rôle grandeur nature, vous verrez que vous avez parfois des jeux qui, alors qu'il n'y a pas d'organisateur qui met la main dans l'engrenage à aucun moment, vont vous raconter une histoire extrêmement complexe et parfois extrêmement sensible. Ça, c'est toujours des images du jeu Chicago, donc toujours d'une association parisienne. Et les voitures que vous voyez derrière servaient à passer d'un site à un autre. C'est des voitures d'époque qu'on pouvait régulièrement emprunter. Moi, j'ai eu une très belle scène où je tirais avec une fausse Gatling sur l'autre voiture qui était derrière. On était à peut-être 15 à l'heure, mais on avait l'impression de rouler comme des fous, quoi. Un truc dont on va vous parler aussi aujourd'hui, et ça tombe bien parce qu'il y a visiblement plein de gens qui connaissent déjà le jeu de rôle grandeur nature, c'est la scène expérimentale. Dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup, 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 beaucoup de jeux différents. Comme au cinéma, tous les genres sont envisagés. Et on va vous parler de quelques jeux qui ont un peu rompu avec les conventions classiques du jeu de rôle grandeur nature pour proposer des jeux vraiment différents. Le jeu que vous voyez derrière s'appelle America. Je dis pas de bêtises, c'est bien. Ouais, c'est America. C'est un jeu qui s'est déroulé sur une place à Oslo. C'est un peu comme si on avait organisé, là, nous tous ensemble, pendant 7 jours, un jeu de rôle grandeur nature sur la place Beaubourg à Paris. Donc, dans les pays scandinaves, vous allez voir que le jeu de rôle a un statut très particulier. C'est considéré comme quelque chose de culturel et assez majeur, en tout cas au Danemark. Et donc aujourd'hui, il y a des scènes expérimentales qui testent des jeux véritablement très originaux et pas si inaccessibles que ça, et on va vous en parler un petit peu aujourd'hui. Donc voilà, j'ai brossé un peu le panorama, on va creuser un peu ça, rentrer dans le vif du sujet parfois. Et on va faire un petit tour du jeu de rôle grandeur nature dans le monde et en France avec Vincent.
Alors, je vais vous parler un petit peu justement du jeu de rôle grandeur nature en France d'abord. Alors, tiens, par exemple, ce jeu-là, c'était un jeu qui se passait, qui s'est organisé, je ne sais plus où exactement, et ça se passait en 1919, après la guerre 14-18, enfin, voilà, pour vous montrer les différentes choses qu'on peut voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu de rôle Grande Nature, c'est avant tout un milieu amateur, dans le sens où c'est des associations de passionnés qui font ça. des bénévoles, donc les joueurs qui y vont évidemment, mais aussi tous les organisateurs, en règle générale, sont des bénévoles, des passionnés qui font ça sur leur temps libre et qui passent beaucoup de temps. Il y a des gens qui écrivent des jeux où ils vous filent le bouquin du jeu, c'est un truc qui fait 1000 pages, enfin, c'est énorme. Donc voilà. Il y a quand même quelques exceptions. Alors là, je vous ai mis une photo qui est issue d'un jeu un peu particulier qui s'appelle Chronique de Candoria. Particulier pour deux choses. D'abord, c'est le plus gros jeu qui se fait en France, c'est-à-dire que c'est environ 1200 personnes. Il y a déjà eu deux éditions, 2011 et 2012, et il y en aura une prochaine. Et l'autre particularité, c'est qu'il est organisé non pas au sein d'une structure associative, comme c'est très majoritairement le cas, mais dans une structure professionnelle. Alors, ce n'est pas le seul, il y a d'autres structures professionnelles qui organisent, mais en général, des plus petits jeux pour des entreprises ou des particuliers. Mais ça reste relativement rare dans le milieu du jeu de rôle Grande Nature. Alors, je vais vous parler un petit peu du GN en France avec quelques chiffres. Ça, c'est une image qui vient d'un jeu sur l'ambiance des chiffres et des lettres. Vous voyez, il y a vraiment de tout, hein. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que, avant tout, en France, on a un organisme qui s'appelle la FEDGN, la Fédération française de jeux de rôle grandeur nature, qui existe depuis quelques années maintenant, et qui a été créée à l'origine parce que des associations se disaient qu'elles pouvaient avoir besoin qu'on parle du jeu auprès du grand public ou qu'on rassemble des forces vives pour pouvoir avoir éventuellement bénéficier d'une assurance ou de genre de choses dont pouvaient avoir besoin les associations. La FEDGN, aujourd'hui, c'est environ 150 associations. C'est un peu plus de 6000 joueurs par an. Mais c'est qu'une partie assez infime, en fait, dans le milieu, puisqu'en fait, on estime que le nombre de gens qui ont déjà joué au jeu de rôle Grandeur Nature en France s'élève plus probablement à environ 50 000 personnes. Pas forcément qui ont continué d'en faire, mais en tout cas des gens qui ont déjà fait du GN. Et donc, il y a probablement plus de 1000 jeux organisés par an en France, donc des chiffres assez conséquents. Et je voudrais vous parler d'événements en particulier. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu de rôle Grandeur Nature et qui voudraient découvrir, savoir ce que c'est. Les nuits du huis clos, c'est quelque chose qui est organisé un peu partout en France. Cette année, il y en a eu 6 différentes. Alors, qu'est-ce que c'est le principe? Le principe, c'est que dans des grandes villes, on va trouver un endroit où on va organiser des petits jeux assez courts qui vont rassembler peut-être une dizaine de personnes sur environ une soirée, donc 4 à 5 heures de jeu. Et ça va être vraiment destiné à faire découvrir l'activité à des gens qui la connaissent pas encore. Alors vous en avez ici à Nantes, je crois que c'est au mois de juillet en général. 6e édition l'année prochaine, donc vous voyez, ça dure. Donc il y en a à Nantes, à Paris, à Rennes, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille. Donc vous voyez, c'est un peu partout. Alors, ça, Baptiste vous en a parlé un petit peu tout à l'heure, je vous en reparle aussi. Il y a une spécificité en France qui est le fait que on cherche à trouver toujours quelque chose de commun entre les différents jeux. On vous a dit, il y a des jeux, vous avez vu à travers les photos, des jeux très très différents, à la fois dans les thèmes, l'ambiance, mais aussi dans la démarche des organisateurs, en nombre de personnes, en durée, il y a vraiment de tout. Il y a quelque chose d'un peu particulier dans le milieu qui se passe depuis quelques années également, c'est que il y a eu des rencontres entre des communautés assez différentes qui n'étaient pas liées et qui se sont rassemblées un petit peu aussi à l'initiative de la Fédération de jeux de rôle Grandeur Nature. Et on cherche toujours un espèce de socle commun qui montre ce qui est central dans le GN, quelle que soit la forme qu'il prenne. Et en France, cette chose un petit peu centrale, c'est le fait qu'on cherche à vivre des histoires. Notamment dans la charte de la fédération, on peut noter que quand on définit le GN, la fédération indique que les participants incarnent des personnages définis et improvisent dans un cadre préparé le scénario. Donc cette notion de scénario, c'est quelque chose qu'on en reparlera après et pas forcément évident dans d'autres pays, mais en tout cas en France, c'est quelque chose d'important. Alors, je vous l'ai dit, donc c'est un milieu hétérogène où il y a vraiment toutes sortes de choses dans le GN. Et donc, je voudrais vous parler de quelques petites, disons, des ambiances qui reviennent un peu plus que les autres. Alors, parlons de la SF, puisqu'on est à un congrès de science-fiction ici. Il y a une étude qui a été faite cette année en France sur... les associations qui organisent le GN en général. La SF, c'est la troisième ambiance, le troisième univers qui est le plus joué en France. Donc c'est assez conséquent. C'est pas celui qui vient en premier, bien sûr, mais ça reste assez conséquent. En premier, c'est évidemment le jeu médiéval fantastique, donc ça s'explique bien sûr par l'histoire, d'où vient, enfin, vous l'avez vu tout à l'heure, d'où vient le jeu de rôle Grandeur Nature, ça vient de cette ambiance-là. Et c'est encore le type de jeu qu'on retrouve le plus fréquemment en France. Et en second, juste avant la SF, c'est tout simplement les jeux contemporains. Je dis tout simplement parce que c'est aussi souvent les plus simples à organiser, puisqu'on imagine que les décors ou les costumes sont plus simples à mettre en place. Ça, c'était sur un jeu qui s'est déroulé à Nantes, qui était inspiré de la série télé The Shield. Donc voilà. Il y a bien d'autres tendances en France. On ne peut pas les citer toutes, c'est impossible, puisque vraiment tous les thèmes, tous les univers sont abordés. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a toujours donc cette, je vous l'ai dit, cette volonté de raconter des histoires. Ce qu'on peut dire également, c'est que la scène expérimentale est encore assez faible en France. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui font des expériences un peu différentes de ce qu'on a en général. Je voudrais vous parler aussi d'une tendance qu'on observe en France depuis quelques années. C'est, quand je vous disais, les jeux sont de plus en plus... c'est des jeux de passionnés qui écrivent beaucoup de choses. Et donc cette notion de plus en plus scénarisé, de plus en plus écrit, c'est quelque chose qui... augmente au fur et à mesure du temps en France. Je voudrais vous parler d'un point sémantique qui me semble intéressant. Alors, donc en France, jeu de rôle grandeur nature, on l'abrège souvent par GN. À l'étranger, on dit LARP. LARP, c'est pour Live Action Roleplay. Et en France, on dit écrire un GN, alors que ailleurs, dans le monde, et en particulier sur la scène nordique, on dit « to design a LARP ». Vous voyez que cette notion est assez différente et en fait assez représentative de ce qu'on fait en France en général, vers des jeux très scénarisés, très écrits, qui sont moins dans la conception de l'événement en tant que tel, plus, on pourrait dire, d'un point de vue artistique, tel que les Nordiques peuvent le faire chez eux. Alors, enchaînons maintenant avec le GN dans le monde, et je laisse la parole à Baptiste.
Donc voilà, on vient de voir un peu à quoi ressemblait la scène française, même si c'est très vague, parce qu'il y a des tas de jeux qu'on peut pas citer ici parce qu'ils sont trop minoritaires. Il y a quelques genres dominants. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon de ce qu'on peut trouver dans le monde, en caricaturant à chaque fois un peu, parce qu'il est évident que dans tous les pays, on va aussi trouver des scènes trop spécifiques pour que j'en parle ici. Donc je vais faire des généralités sur des pays qui ne sont pas représentés ici, parce que c'est marrant. Donc je vais commencer par les États-Unis. Les États-Unis, donc, c'est là que sont nés les premiers wargames et les premiers jeux de rôle. Et aujourd'hui, ils en sont encore au début. C'est-à-dire que le jeu de rôle tel qu'il se le représente l'américain qu'on a déjà entendu parler, le jeu de rôle grandeur nature, c'est des mecs en costume pas terrible, avec des armes en latex pas terrible, qui se tapent dessus, au mieux dans un parc municipal. Alors c'est pas toujours le cas, hein, je me répète, mais malgré tout, la plupart du temps, c'est essentiellement du gène de bataille. Et les gènes les plus connus sont ceux où il y a le plus de gens qui se tapent dessus. C'est quand même essentiellement un milieu masculin. On ne sait pas pourquoi, c'est un mystère. Mais donc aux États-Unis, c'est comme ça que les gens se représentent le LARP ou le jeu de rôle grandeur nature. Ça, c'est marrant parce que c'est une image Google Street View. C'est-à-dire que le type a regardé et voilà, c'était deux gars qui ce jour-là se battaient tout seuls, hein, visiblement, sur le parking en costume à côté d'un trottoir. Donc ça donne une super image de l'activité. Alors, c'est pas les seuls pays à faire du médiéval fantastique et qui plus est de l'action. Par contre, c'est pas toujours aussi moche. Ça, c'est une image qui est extraite d'un gène allemand. Ça doit être Conquest of Mythodea. C'est, je pense, un des plus gros gènes européens. C'est peut-être même le plus gros gène européen, si c'est ça. Ouais. Les Allemands font des efforts de costume ahurissants. Mais c'est ouvert à tous les étrangers. Vous pouvez tout à fait faire un groupe de Français. Il y a tous les ans un groupe de francophones qui part là-bas et qui monte toute une petite armée. Alors oui, c'est de la baston très souvent. C'est médiéval fantastique. Mais ils mettent un soin tout particulier à la fois dans leur costume, comme vous pouvez le voir, dans la gestion du site. C'est-à-dire que c'est absolument nickel, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 1500... non, il y a plus que ça. Ils sont combien ? Bon, ils sont vraiment beaucoup, quoi, des milliers à aller tous dans les mêmes toilettes chimiques et c'est propre. Ah, ça, c'est hallucinant. Et ils mettent le même soin à respecter les règles. Donc, quand on est sur un champ de bataille en Allemagne, il y a 1500 personnes qui tapent sur 1500 autres personnes avec des règles diverses, de magie, de pouvoir, de boules de feu. Et malgré tout, c'est cohérent et ça tient la route. Alors, le gène de masse, on en trouve ailleurs. On trouve aussi le gène russe, qui est un peu particulier. Les Russes font beaucoup du gène à 2000 personnes environ, quoi. Ils font ça en forêt, souvent. Et s'ils sont moins de 1000, ils ne préviennent pas les autorités parce qu'ils peuvent être considérés comme étant une armée de dissension vu qu'ils se battent avec des armes réelles. C'est dommage, j'en ai pas là, mais vous pouvez trouver des vidéos de gènes russes où les types se balancent des troncs d'arbres sur la tête alors qu'ils sont en armure complète pour essayer de prendre un fort. C'est très violent, mais si vous voulez vivre un truc unique et puis le vivre une bonne fois pour toutes, quoi, c'est là-bas qu'il faut aller. Rapidement sur le gène de masse, vous pouvez aussi trouver Bicoline au Québec ou en Angleterre, le Gathering. Je les cite très très brièvement, mais il y en a un peu partout. Et il y a également Avatar en Belgique, pas si loin d'ici. Le camp du dragon aussi. Dans le monde, il y a aussi une scène expérimentale. Ça, c'est un jeu français. Le chauve au premier plan, c'est lui. C'est un jeu basé sur la série Doctor House où les gens essayent d'incarner un médecin. Pour ça, ils vont pendant 2 heures apprendre tout un système de règles de médecine qui va leur permettre d'échanger en ayant des dialogues un peu comme ceux des séries télé. Donc les gars ne sont pas médecins, mais il y en a un qui va dire un truc du genre « il nous faut 50 cc de dopamine, sinon il va faire un AVC dans les 5 minutes » et l'autre, ça a du sens pour lui. Pour un vrai médecin, ça n'aurait aucun sens, hein, ou alors c'est vraiment que j'ai eu du bol. Donc c'est l'idée du jeu, c'est le concept qui est derrière, il n'y a quasiment pas de fiche de personnage et ça concerne 3 joueurs pendant seulement 2 heures. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans les formats qu'on vous a présentés jusque-là. Il y a une petite scène expérimentale en France, mais faut en être fier, elle est quand même vraiment pas mal. Il y a des tas de choses intéressantes qui se font. Et des scènes expérimentales, on peut aussi en trouver en Italie, en Russie et surtout en Scandinavie. Et on va faire un petit tour vite fait de ce qu'on peut trouver dans les pays nordiques. Alors, dans les pays nordiques, ça commence avant tout avec le Danemark. Au Danemark, ils estiment qu'il y a à peu près 500 000 personnes qui ont déjà fait du jeu de rôle grandeur nature. Donc c'est énorme, c'est un truc que tout le monde connaît. Pourquoi ? C'est parce qu'ils organisent énormément de jeux pour les jeunes. C'est-à-dire quelqu'un au Danemark qui a moins de 15 ans, il y a une chance sur deux qu'il ait fait en colo un jeu de rôle grandeur nature. Donc derrière, bah, y en a plein qui réorganisent des trucs plus tard pour leurs copains. À Copenhague, il y a un UV à l'université sur le jeu de rôle grandeur nature que vous pouvez passer. Et d'une manière générale, dans les pays nordiques, ils font énormément d'écritures, de théories sur le jeu grandeur nature. Ils produisent énormément de lignes et ils expérimentent beaucoup de jeux. Les images que vous avez derrière là, c'est un jeu qui s'appelle Capo. Capo, ça doit être quelque chose comme 3 jours d'atelier où ils improvisent, les joueurs ont improvisé entre eux quelque chose et ensuite ils se sont installés dans un décor construit pour l'occasion, qui ressemblait à une prison dans un jeu d'anticipation où ils avaient bouclé tout le monde. Tous les opposants au régime, tous les gens qui avaient des styles de vie alternatifs. Les joueurs sont donc restés enfermés là-bas pendant extrêmement longtemps, avec des activités aussi rébarbatives que repeindre les murs, retaper le grillage ici et là, à jouer la routine de la prison dans des conditions assez dures. Alors il y avait un endroit où ils pouvaient se barrer pour aller prendre un café hors jeu et revenir un peu plus tard, mais les conditions dans le jeu étaient quand même particulièrement hardes. Une des particularités de ce jeu, c'est que les joueurs n'ont pas reçu de fiche de personnage. Ils ont créé leur personnage pendant des ateliers d'improvisation les uns avec les autres, pendant plusieurs jours, et ensuite ils ont commencé à jouer les uns avec les autres dans la prison. Donc il y a des groupes qui se sont créés, notamment un groupe qui s'appelait les rats. Eux, ils avaient projeté de creuser des tunnels, et ils l'ont vraiment fait pendant le jeu, en abattant un mur, en passant au travers, et en allant réabattre un mur plus loin pour aller kidnapper un autre joueur. Donc moi j'avais un ami qui était en cellule là-bas et qui m'a raconté la scène, il était en train de dormir, il a entendu un gros blaah, il y a un pan de mur qui est tombé, il y a 5 types qui sont rentrés, qui ont chopé un gars et qui sont repartis avec dans le mur. Ça se vit quoi. Un truc intéressant aussi, c'est que les organisateurs, n'ayant pas à écrire énormément de background, ont pu se concentrer sur les décors. J'ai pas de photo ici, mais ils ont inondé toute une partie de la prison pour faire des salles immergées totalement, il fallait marcher sur des planches. Donc c'était très humide mais très beau. Autre particularité de Capo, c'est que c'est un jeu qui était psychologiquement très dur. Alors les joueurs avant pouvaient décider ou non d'accepter un certain nombre de tortures, je mets des guillemets parce que c'est des tortures simulées. Toutefois, parmi ces tortures, il y en avait deux qui étaient intéressantes. Enfin, ça va vous choquer, mais c'est un peu le but. Hein. Ils sont tarés, c'est nordique. Un premier truc, c'est que vous pouviez accepter de vous faire passer la tête dans une baignoire par quelqu'un. Donc c'est très court, hein. Ils ne maintenaient pas la tête sous l'eau, c'était juste un aller-retour dans la baignoire, mais il y a quand même plein de joueurs qui ont refusé, qui se sont dit non, je sais que je vous connais, on va faire 3 jours d'atelier d'improvisation ensemble, mais je n'ai pas envie de subir ça. Il y en a qui ont quand même signé, ils ont trouvé ça assez traumatisant. Et il y avait aussi la possibilité pour certains d'entre eux d'accepter de recevoir une prise de sang de quelqu'un qui est vraiment médecin, mais une prise de sang sans raison, quoi, absolument gratuite. Bon, moi, je n'aime pas les piqûres personnellement, donc je pense que j'aurais dit non. Donc le but du GN est beaucoup moins de créer quelque chose de distrayant que de proposer une vraie expérimentation de conditions difficiles de torture psychologique. Ça c'est toujours America, donc sur la place à Oslo. C'est intéressant parce qu'ils ont obtenu des fonds pour le jeu et que, comme vous pouvez le voir, ils ont recréé une sorte de bidonville avec énormément de matériel. Donc c'est un truc dont des écolos se sont emparés. Il y a une chaîne télé qui est venue filmer pendant 2 jours, je crois, ce qui se passait à l'intérieur. Et il y avait du public sur les barrières autour qui pouvait regarder les joueurs évoluer pendant, je crois, 5 ou 7 jours. Je ne sais plus trop. Il y a d'ailleurs eu un clash en jeu avec la chaîne de télé. C'est-à-dire qu'ils ont donné des rôles aux journalistes qui jouaient vraiment des journalistes dans le jeu qui filmaient les sortes de favelas qu'ils avaient créées. Et à un moment donné, les journalistes se sont fait dégager par les personnages. Donc ça c'est un gène qui a énormément fait parler de lui dans la presse évidemment, et ça vous donne une idée de la dimension culturelle qu'ils peuvent donner à ces jeux. Un autre exemple intéressant c'est Delirium, c'est un jeu qui se passe sur des scènes de théâtre qui ont été décorées, et dans ce jeu là ils ont utilisé plein d'outils qu'on utilise très rarement en France. Il y a des exemples qui me viennent en tête, c'est le premier, là en ce moment la lumière comme vous pouvez le voir est blanche, et de temps en temps la lumière devenait rouge. Au moment où la lumière devenait rouge, Les joueurs considéraient, en tant que patients de l'asile, qu'ils étaient dans leur propre folie et agissaient donc n'importe comment. Et la lumière redevenait blanche et on repassait en quelque sorte dans le monde de l'institution, le monde réel avec les médecins qui sont là pour te soigner. Un autre procédé intéressant, c'était les objets rouges. Sur ce jeu, il y avait des tas de lits blancs et il y avait un lit rouge qui était 2 fois plus petit que les lits blancs. Le principe des objets rouges est le suivant. Tout le monde, tous les joueurs doivent considérer que leur personnage le voit comme un lit normal. Par contre, à l'utilisation, il va être problématique. Il y avait par exemple des tasses, des mugs blancs, et puis une tasse rouge qui était trouée. Donc quand on servait quelque chose dedans, tout tombait. Donc pour tous les joueurs, c'est une tasse blanche normale. Ils doivent considérer que le type qui a la tasse dans la main a une tasse normale, qui n'est pas trouée. Et pour le type qui a récupéré cette tasse-là, bah, le liquide passe au travers. Alors il commence à râler, il commence à dire « Mais pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe? Pourquoi cette tasse-là ?» Et donc, il commence à jouer un personnage un peu décalé, un peu fou. Donc, il y a des tas d'outils comme ça intéressants qu'ils ont utilisés, aussi des outils musicaux. Ils ont rediffusé pendant la nuit des interviews des joueurs en train de jouer leur personnage. Ils ont joué des scènes de la routine de l'institution jusqu'à 30 fois de suite pour essayer d'expérimenter ça. Donc ils ont passé une journée derrière à essayer de discuter du jeu et faire ce qu'ils appellent des ateliers de defucking pour sortir un peu du truc. Pour autant, la plupart ont reconnu que c'était une expérience quand même extrêmement traumatisante et qu'il était absolument nécessaire pour eux de pouvoir à tout moment sortir, demander des cookies et dire « Ok, j'arrête là l'expérimentation ». Donc on n'est pas du tout dans quelque chose du domaine du distrayant ou du loisir, quoi. C'est tout à fait autre chose. Donc ça, c'était Delirium. Et puis comme on est sur un salon SF et que c'est le cas, il y a beaucoup d'anticipation dans les jeux nordiques. Et ça commence à arriver un petit peu en France. Ils font beaucoup de jeux où ils se projettent dans un futur en changeant une donnée, en faisant de l'anticipation. Ça, c'est une image de Mad About the Boy, un jeu dans lequel l'univers est très simple. À un moment donné, il y a eu un cataclysme, une maladie, un virus. Tous les hommes ont disparu de la surface de la planète. Donc à partir de là, c'est organisé une société dirigée par des femmes, forcément, c'est tout ce qui reste. Et le gouvernement a fait main basse immédiatement sur les banques de sperme, ce qui paraît logique. Ensuite, ils ont commencé à se dire, qu'est-ce qu'on fait du sperme ? On va le distribuer à des groupes de 3 femmes auxquelles on va faire passer des tests de psychologie. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir si ces femmes sont dignes de recevoir ou non un échantillon de sperme pour essayer d'élever un enfant. C'est trop important, c'est l'avenir de la planète qui est en jeu, on ne peut pas faire ça autrement. Et ils ont fait une sorte de télé-réalité pour faire ça en toute transparence. La bonne idée. Donc c'est le pitch du jeu, donc c'est un jeu avec un scénario qui est quand même très mature, qui n'est pas spécialement fun, dans lequel des groupes de 3 femmes essayaient de passer des tests psychologiques, de convaincre un jury qu'elles étaient dignes, aptes à recevoir du sperme pour que l'une d'entre elles devienne une mère porteuse. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, au bout d'une journée de jeu, il se trouve qu'un homme débarque. Alors c'est dit dès le départ, je ne vous spoil rien. Donc un homme débarque, il vient de la forêt, il ne sait pas trop ce qu'il fout là. Et donc les femmes qui sont là commencent à se demander ce qui se passe exactement. Si vous avez l'occasion de taper Mad About the Boy sur Internet, vous trouverez des vidéos. Et vous verrez que c'est assez impressionnant de voir avec quelle maturité les femmes qui passent les tests psychologiques répondent aux questions de la caméra. Comme il y avait une notion de télé-réalité, c'est tout en jeu. Elles sont en train de répondre aux questions et on croirait voir une vraie télé-réalité d'anticipation. C'est très impressionnant. Et puis avec Vincent, on va voir un petit peu les perspectives d'avenir parce que le monde du jeu de rôle dans la nature bouge énormément. Là, on vous a présenté quelque chose de très vague. Il y a des tas de choses à voir. Et comme il y a des choses qui bougent, on va vous présenter un peu ce qui se passe et ce que pourrait devenir le jeu de rôle dans la nature dans les années à venir.
Oui, alors je vais vous parler effectivement de quelques projets éventuellement qui sont en cours, des tendances qu'on peut voir en ce moment et se poser la question de que deviendra le jeu de rôle grandeur nature, enfin en tout cas en France, pour les autres pays c'est un peu plus difficile de répondre, dans les années à venir. Alors, on a parlé tout à l'heure du Danemark où ils sont plus de 500 000 avoir déjà fait du jeu de rôle grandeur nature, donc 10 fois plus qu'en France, vous imaginez. Et notamment parce qu'ils font jouer les enfants, tout simplement, puisque c'est l'avenir tout simplement de l'activité. Alors, faire jouer des enfants, ça se fait déjà beaucoup en France, malgré tout. Vous avez notamment, depuis les années 80, une colonie de vacances qui s'appelle Rêve de jeu, qui fait jouer des enfants à des jeux divers, y compris du jeu de rôle grandeur nature. Donc, c'est pas nouveau, mais ça reste encore assez faible. Même si, donc, je vous avais dit, il y a une étude qui a été faite cette année sur les associations qui font du GN. Il y en a environ la moitié qui font jouer des mineurs, mais en général, c'est des mineurs qui ont plus de 16 ans. Donc vraiment, faire jouer des enfants plus jeunes, ça reste beaucoup plus rare. Il y a un projet qui a été lancé il n'y a pas très longtemps de ça, qui était une initiative allemande à l'origine, qui s'appelle l'Académie d'Endiria. Et il y a eu des partenariats avec la France, des Français qui sont allés là-bas. Donc l'idée, c'est de faire découvrir le GN à des beaucoup plus jeunes. Donc il est possible que ça se prolonge dans les années à venir, que ça continue, et puis donc que l'activité soit davantage connue par tous. Alors, je vous ai parlé de la fédération de GN tout à l'heure. Il faut savoir que la fédération a un agrément de l'État qui dit qu'elle est agréée jeunesse et éducation populaire. Alors l'éducation populaire, c'est quoi? C'est le fait de s'apprendre tous les uns les autres diverses choses. C'est un courant assez vaste, on ne va pas en parler longtemps ici. Il y a plusieurs associations en France qui, depuis plusieurs années, font de l'éducation populaire. À l'étranger, c'est le cas aussi. Et je vais vous parler notamment aussi du fait qu'il y a de plus en plus de projets à l'étranger, mais on sent que ça commence à arriver en France, où les jeux, on vous a dit, des jeux qui deviennent plus matures et aussi des jeux qui parlent de sujets plus actuels. Notamment, pour la science-fiction, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement, parler d'un sujet actuel en le transposant dans un univers imaginaire. C'est quelque chose qui commence à se faire davantage. Donc Baptiste, vous avez parlé de quelques jeux. Il y en a eu un autre qui a eu lieu en Suède au mois d'octobre, qui s'appelait 2027, la vie après le capitalisme, qui essayait de réfléchir sur plusieurs sujets, disons, de société actuelle au travers d'un jeu d'anticipation. Donc ça, ce sont des choses qui sont pour le assez fréquentes à l'étranger. En France, c'est encore peu le cas. Il y a malgré tout quelques initiatives. Vous devez tous connaître la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu notamment un GN qui s'est organisé là-bas au mois de juin par des activistes qui connaissaient le jeu de grandeur nature et qui se sont dit on voudrait se servir de ce média-là aussi pour faire parler de nous. Donc on voit que c'est une activité et un média qui commence à être utilisé différemment. Pas juste un jeu qu'on fait pour s'amuser comme c'était à l'origine, mais c'est quelque chose qu'on voit davantage maintenant. On pourrait parler d'autres choses dans le monde. Il y a notamment en Russie. Alors il n'y a pas que les jeux où ils se tapent dessus avec des vraies épées en Russie, puisque y a des sujets de société aussi, notamment ils ont quelques petits problèmes avec des élections parfois truquées. Et il y a des gens qui se sont dit c'est un problème chez nous, donc on voudrait essayer de régler ça. Et c'était aussi, il se trouvait que c'était des gens qui faisaient des jeux de rôle grandeur nature, et donc ils ont imaginé des GN qui apprennent à devenir peut-être plus citoyens, à pouvoir contrôler les élections, savoir comment ça se passe. Donc c'est ce genre d'initiative qu'on voit se développer de plus en plus. Il y a des Norvégiens qui se sont rapprochés d'une organisation de jeunesse palestinienne l'année dernière et qui ont organisé un jeu en Palestine cette année, où l'idée était de faire vivre un mariage entre une Palestinienne et un Norvégien. Donc comme ça, tout dans le jeu, il y avait une rencontre des cultures avec la famille du Norvégien qui venait, les gens de la famille de la Palestinienne, et donc tous ces gens qui ne parlaient pas la même langue, évidemment, les joueurs et les personnages se rencontraient et découvraient ainsi leur culture à travers le GN. Donc voilà, on peut se demander si c'est quelque chose. En tout cas, ça a l'air il a l'air d'y avoir de plus en plus d'initiatives de ce genre un peu partout dans le monde. Alors peut-être qu'en France aussi, ça va se développer. J'enchaîne d'ailleurs sur un rapprochement peut-être avec le théâtre et le cinéma. Dans la même veine, il y a un projet qui en est encore à ses balbutiements d'ailleurs. Pour le moment, c'est un projet qui rassemble des géanistes en France, en Allemagne, en Italie et un metteur en scène de théâtre. L'idée de ce projet, c'est d'essayer justement de parler des conséquences de la crise financière en Europe et peut-être de pouvoir ensuite faire à la fois une pièce de théâtre et un GN, ou peut-être que les spectateurs qui verraient la pièce de théâtre seraient amenés ensuite à aller jouer le jeu de rôle grandeur nature, ceux qui l'auraient joué à aller voir la pièce ensuite. Donc c'est ce genre de projet qui commence à naître en France. Et cinéma, pourquoi est-ce que je vous parle du cinéma? Il y a quelque temps, il y avait le responsable de la branche cinéma de la chaîne de télévision Arte. Donc Arte produit des films. Et donc ce type-là est allé en Suède où il avait des contacts et il a joué un GN là-bas. Il a trouvé ça super. Et puis il est revenu en France et il s'est dit, bon, bah, je voudrais faire la même chose parce que le GN, ça n'existe pas en France. Bon, il se trouve qu'il lui manquait un peu de contact. Et donc, il a voulu, lui, ce qu'il a voulu faire, c'est se dire, bah, on va prendre un film qu'on a produit et puis on va essayer de faire jouer la suite à des gens. Donc, c'était le film tourné de Mathieu Amalric. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Et donc, il a fait venir des gens qui n'étaient pas tous des gens qui faisaient du GN, mais évidemment, le milieu du GN, on a entendu parler, s'est rapproché de lui. Donc, le jeu a eu lieu la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus. Et donc, c'est un premier pas pour rapprocher le milieu du GN avec un milieu du cinéma qui a plus de moyens. Qui s'intéresse à ce loisir-là sous diverses formes. Alors ensuite, voilà, on a fait un petit peu le tour des projets qui sont en train d'être lancés, je dirais. Pour tous ceux qui voudraient prolonger un petit peu ce qu'on a dit là, découvrir d'autres types de jeux, d'autres GN, pouvoir s'inscrire à certains jeux qui sont organisés. Donc on tient un site sur lequel il y a pas mal de choses. On vous conseille d'y aller. Maintenant, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions qu'ils voudraient nous poser.
Question par rapport au GN nordique, de ce que vous avez dit, en fait, ça ressemble beaucoup à comment dire, c'est assez artistique, quoi. C'est quelque chose dans la représentation artistique ou carrément l'expérimentation pour l'étude psychologique, etc. C'est de ce que j'ai compris basiquement. Hein. Et en quoi ça reste du jeu, comme on peut le comprendre pour nous Français? Quel point commun en fait entre un GN français et un GN nordique?
Alors, voilà, effectivement,
on voit les différences, mais le point commun, quel est-il en fait?
Effectivement, il y a un côté très culturel, artistique sur la scène nordique. Alors, il faut savoir, on a parlé de cette scène nordique, il faut savoir que dans les pays nordiques, ils font aussi du GN tel que nous, on peut le voir. C'est pas du tout, ils ne font pas que ça. Il y a une scène du GN nordique un peu particulière, un peu expérimentale. Mais c'est pas les seuls. Enfin, ils font pas que ça là-bas. Je dirais que le point commun avec ce qu'on peut voir en France, il reste malgré tout la notion de jouer un rôle physiquement dans un univers donné. Après, la démarche, effectivement, va pas forcément être la même, mais les moyens de le faire vont être assez proches, puisqu'on va jouer vraiment un personnage dans un contexte, dans un cadre, avec d'autres personnages en face de nous. On va leur parler. Voilà, on va vivre ce personnage. Donc les moyens de faire sont assez proches. C'est en ça qu'on peut dire que ça reste assez proche de ce qu'on fait ici en France.
Bonsoir.
Bonsoir.
J'ai une question très terre à terre qui n'a probablement pas de réponse unique d'ailleurs. Mais c'est quoi un peu le budget d'un GN en comptant le costume, la participation, le matériel?
Pour un joueur, tu veux dire?
Oui.
Alors, je ne sais pas si tu as un chiffre de la moyenne en France. Moi, je dirais entre... ça peut commencer à 5 euros, mais qu'on doit plutôt se situer entre 60 euros et 100 euros de participation aux frais pour s'inscrire. C'est vraiment une participation aux frais, souvent auprès d'une association. Ça paye le logement, la nourriture, etc. la plupart du temps. Tout est expliqué d'ailleurs quand tu t'inscris. Ensuite, le budget costume, il y a un truc que je n'ai pas précisé. J'ai dit que vous pouviez jouer comme un gros nul. Mais vous pouvez aussi être costumé comme un gros nul sur plein de jeux. Alors, on appréciera si vous faites des efforts. D'ailleurs, vous voyez, vous ne serez pas en photo là si vous n'avez pas fait un super costume. Mais pour autant, ce n'est pas, la norme. On ne vous demande pas d'avoir un costume que vous avez mis des années à faire. Le cosplay, par exemple, me paraît être une activité beaucoup plus exigeante à ce niveau-là. Qui plus est, vous êtes souvent à peu près libre de porter le costume que vous désirez. C'est-à-dire qu'on va vous donner un rôle, mais vous allez pouvoir le choisir. Et si jamais on vous donne, par exemple, un rôle de magicien, vous pouvez tout ça te dire que vous jouez un magicien pauvre et avoir des vêtements qui ne sont pas très reluisants, par exemple. C'est une possibilité. Le budget général, après, il faut compter aussi le covoiturage. Je ne sais pas où il se situe. Exactement. Mais vous aurez toutes les infos si vous décidez de vous inscrire à un jeu. Une autre question ?
Alors, j'en profite pour dire deux choses. Le premier, c'est que sur le site de la Fédération française, la FEDEGN, F-E-D-E-G-N, il y a un calendrier qui vous permet de vous inscrire à des tas de jeux. C'est pas tous les jeux, mais il y en a beaucoup. Et ici, au moins un, je crois, il y a au pôle ludique tout un espace où vous pouvez rencontrer des joueurs de jeux de rôle grandeur nature qui sont souvent des joueurs de jeux de rôle de la région, qui vous parleront du projet du Camp du Dragon, qui est un projet qui existe dans votre région et qui est un gros projet, qui vous parleront du Camp d'Oria dont on a parlé tout à l'heure, et aussi de plein d'autres projets. Donc vous pouvez encore, à mon avis, aller les rencontrer un moment. Et si ce n'est pas pour cette année, là, ils sont tous couchés, ce sera pour l'année prochaine. Ils sont tous là-bas, voilà, levez la main. Donc n'hésitez pas à aller les rencontrer, c'est hyper simple d'accès. Là, on vous a brossé un petit tour d'horizon avec des trucs qui font rêver, qui se passent dans d'autres pays, qui ont l'air un peu complexes. Mais c'est quand même un loisir très accessible. La base, c'est cow-boy et indien. Et c'est un loisir qui a un taux de rétention absolument énorme. Et pour finir, le jeu organisé par Arte a été filmé à notre grande âme à tous les deux, puisqu'on y était. Donc si jamais vous voulez voir des gens en train d'essayer de faire un jeu de rôle grandeur nature, il y aura un reportage qui sera diffusé demain soir sur arte.tv, donc sur le site web d'Arte, après la diffusion du film tourné. Donc voilà, ça vaut peut-être le détour, je ne l'ai pas encore vu. On sera peut-être ridicule dedans, mais en tout cas, ça vous donnera un petit peu une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Voilà, ça génère pas de questions. Et ben merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés.